démarrant en montant ce programme, puisque dans la commission, c'est plutôt moi qui me suis chargé de ces aspects-là. Je m'étais dit, bon, la première séance, c'est facile, je vais appeler des copains historiens d'énergie et il y aura quelqu'un qui va être hyper content de venir à Cerisy. Et j'en ai appelé 5 ou 6 au final. Et ils avaient tous une bonne excuse pour ne pas venir, malheureusement. Ils ont tous regretté, toutes et tous. Et au final, du coup, on s'est dit, bon, je vais m'y coller. Hein, puisqu'il n'y a pas les vrais historiens. C'est au passage, je peux vous signaler l'existence d'un comité d'histoire de l'énergie et de l'électricité très actif. Une revue d'histoire de l'énergie aussi active. De la pub pour ses collègues. Je suis, comme Francis l'a dit, en fait, on est là. Si on a été choisi pour le débat public, c'est parce qu'on n'y connaissait rien. En fait, c'est ça le démarrage. Hein. C'est ça, normalement. Qu'on n'avait pas trop de liens avec le lobby de l'éolien ou du contre-éolien, etc. Et donc, moi, personnellement, je connais pas rien à l'énergie. En revanche, je connais rien à la mer, donc ça va. Et puis, l'énergie aussi est familiarisée un petit peu. Mais je vais proposer ici quelques lignes de problématisation, pour le dire comme ça, plus que de l'histoire au sens vraiment d'une chronologie. L'histoire, c'est intéressant parce que ça permet évidemment de tisser les problématiques, hein, de les voir à l'œuvre, de les voir évoluer. Et donc, je vais vous proposer un certain nombre de réflexions sur les liens entre mer, énergie, et puis, soit on l'appelle aménagement du territoire, soit on l'appelle action de l'État, en fait, hein, pour le dire un peu comme ça, plutôt action de l'État. Action de l'État sur ces deux aspects, croisant ces deux aspects et faisant la rencontre entre ces deux entités, puisque en fait, pour tisser avec le titre des rencontres, hein, la mer, nouvel horizon des énergies entre territoire et imaginaire. Effectivement, j'avais fait du coup un petit texte en me disant voilà, moi je suis, comme Francis, on est universitaire, notre façon de penser, c'est peut-être d'essayer de problématiser les choses, etc. C'est pas vraiment ce qui se passe dans le débat public, en fait, dans les faits, mais ça permet quand même de poser les choses. Et du coup, je vais vous proposer ici ces quelques réflexions en trois temps. D'abord, un peu des considérations sur cette question du côté de l'énergie. Est-ce que les évolutions récentes permettent l'horizon de la mer permet-il de retomber sur ses pieds? En fait, je vais vous poser un peu comme ça pour les enjeux énergétiques. Deuxièmement, les spécificités de la mer, et je serai assez modeste là-dessus. Et puis après, quelque chose sur l'action étatique sur ces deux volets. Comment est-ce que l'État, voit à la fois dans la mer et dans l'énergie des formes de prolongement de sa souveraineté, de sa puissance, etc. Donc ça sera les propositions. Et puis évidemment, on pourra les discuter. Les contrecarrer, les triturer, si c'est le but ici, j'imagine. Alors, premier constat, en fait, du côté de l'énergie, est-ce que la mer va permettre de retomber sur ses pieds habituels, qui sont ceux de l'énergie? Alors, le premier constat que je pouvais dresser, c'était de se dire, les centrales de production énergétique, alors, on sait qu'historiquement, on a eu plein de moulins un peu partout, etc., très disséminés, mais elles ont fini avec notamment l'idée de la centrale, de la machine à vapeur au 19e, qui a concentré et les capitaux et les flux, etc. Et puis après, avec les objets du 20e, elles ont fini par produire des objets macroscopiques, plutôt fermés, plutôt contrôlés, dont l'icône, c'est la centrale nucléaire, et même les centrales thermiques plus classiques, avec des cas quand même un peu limites comme les barrages hydroélectriques, qui sont à la fois des choses où il y a un intérieur très fermé, très contrôlé, et puis en fait un extérieur très pratiqué, comme si on pense au lac de retenue où on a plein de tourisme, plein de pratiques diverses. Donc on a quand même globalement un caractère fermé, un caractère à distance, contrôlé, peu visible de ces lieux de production, va de pair avec le réseau, l'idée même de réseau électrique, hein, qui a évidemment une distanciation entre le lieu de production et le lieu de consommation. Cette mise à distance a contribué évidemment à une forme d'invisibilisation, au moins des objets, pas forcément des entités qui les portent, notamment pas de EDF, hein, qui a essayé par des campagnes de communication, quand il s'agit de financer le programme Mesmer, etc., à lever des fonds par de la communication. Donc, dans les années 70-80, donc on a des formes de visibilité, mais plutôt de l'opérateur que des lieux même de production. Et d'ailleurs, la constitution en garantie d'EDF, c'est aussi l'idée qu'on va faire un grand opérateur national qui a certes une forme de visibilité, mais qui est beaucoup moins territorialisé que les multiples petits opérateurs locaux que connaissaient toutes les communes, tous les départements, etc., localement. Ça va de pair avec la métropolisation, l'urbanisation et donc des formes de mise à distance. Ce qu'on peut constater, c'est que depuis, peut-être 20 ans ou quelque chose comme ça, on a deux dynamiques qui remettent un peu en cause ce schéma. À mon avis, il y en a deux. C'est d'une part l'ouverture du marché à la concurrence et d'autre part la question des renouvelables. L'ouverture du marché à la concurrence, en fait, va faire émerger des opérateurs nouveaux, va faire émerger des échelles nouvelles, que ce soit des échelles européennes, enfin des opérateurs internationaux qui arrivent, etc., ou des échelles ultra-locales, hein, les coopératives énergétiques, les communautés de production énergétique, etc. Donc on a un peu un basculement par ces deux échelles qui viennent en fait mettre au défi l'échelle nationale qui s'était instaurée depuis 1946. Et puis par ailleurs, évidemment, le renouvelable qui, avec d'autres formes de production plus modestes dans les puissances et beaucoup plus disséminées dans les territoires, va donner évidemment un autre visage à ce que c'est que la production énergétique et essentiellement électrique, hein, puisque là on parle beaucoup d'électricité. Par ailleurs, je ne parlerai pas ici de l'essentiel de notre énergie qui est le pétrole, évidemment, ici comme ailleurs. En plus de ça, donc ces deux dynamiques, elles s'inscrivent aussi dans un contexte qui est formé au moins par plusieurs éléments, donc le changement climatique évidemment, l'arrivée à terme de ce qui était produit par le plan Mesmer, à savoir la fin de vie des centrales nucléaires, enfin en tout cas leur horizon qui se préfigure, enfin même la fermeture d'une première centrale nucléaire. Et puis, comme tu l'as dit, Francis, le fait que l'énergie est tous les matins, maintenant, dans tous les médias, tout partout, alors peut-être avec la précarité, avec plein d'aspects qui sont là. Et du coup, dans ce cadre, l'émergence des énergies éoliennes en mer peut se comprendre comme étant une sorte de tentative de retrouver l'ancien modèle de l'énergie centralisée et massive. Avec les ordres de grandeur de parcs qui sont ceux des centrales nucléaires et qui sont extrêmement éloignés de ce qu'étaient les éoliennes terrestres des débuts avec 1, 2, 3 mégawatts. Là, on est... Alors hier, je crois que c'est Damien qui nous parlait de 20 mégawatts peut-être pour les futures éoliennes au large de la Normandie, de 290 mètres de haut en haut de la pale, donc on n'est plus du tout sur les mêmes objets. Et donc on n'est plus non plus sur les toutes premières éoliennes, je sais pas, celles qui permettent de tirer de l'eau, les éoliennes américaines avec plein de pales, qui évidemment sont des tout autres objets qu'on imagine beaucoup plus disséminés, mais pas avec le même usage. La montée en puissance, évidemment, une montée en coût et des changements dans la capacité de financement qui ne peut plus être tant participatif que ça, même si on pourra en rediscuter de ça cet après-midi, puisque Sylvain avait des exemples de participatif en Écosse, c'est ça, je crois, même sur des projets très... Non, c'était pas ça. Si, oui. Ou je sais plus. Oui, si, c'est en France même. Sur des projets même chers. Donc on a cette montée en puissance, elle est rendue possible par une évolution technique de l'objet, qui est capable d'atteindre 290 mètres, de basculer. Enfin, je pense qu'on s'étonne tout. Moi, ce qui m'a frappé dans le débat public, c'est peut-être la taille des objets, en fait, quand on est allé les voir à La Rochelle. C'est quand même un objet extraordinairement énorme. Je ne sais pas si vous dire extraordinairement, mais énorme. voilà. qui a un côté déraisonnable, en fait, dans sa taille. Qui vient, en fait, où on voit que là, c'est la solution par la mer, puisque la mer rend possible ce qui est plus gros. Et c'est le fait qu'en terre, on a bien une saturation des sites. On sait qu'un des problèmes pour les éoliennes terrestres, je crois, c'est que on n'arrive plus à acheminer le mât, tellement il est gros, dans les sites un peu escarpés, etc. Donc un problème de logistique. Et la mer rend possible de changer, de passer à d'autres ordres de grandeur, de taille. Alors moi, l'analogie que j'avais proposée, c'était, quel est le plus gros animal sur Terre, c'est l'éléphant, et puis sur mer, c'est la baleine. Donc on est sur des autres ordres de grandeur, de même que le porte-conteneur, c'est des milliers de poids lourds. Donc on gagne des ordres de grandeur en passant en mer. C'est bien en mer qu'on a développé les objets les plus gros, finalement, que les turbines, les paquebots, etc., les gros objets. Donc la mer possède un côté un peu libérateur des contraintes de la Terre, et elle rend possible la montée en puissance, et elle permet à l'État de finalement retrouver des gros objets, ceux sur lesquels il est habitué à travailler, ou avec lesquels il est habitué à travailler, et avec des logiques qui sont habituellement les siennes, de centralisation, d'optimisation des coûts, éventuellement de planification. Avec des raccordements à un gros réseau, donc qui en plus ont tendance à réduire les interlocuteurs en face, parce que les industriels qui sont capables de construire ce genre de machin, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc on a aussi une sorte on retrouve un peu des liens habituels entre l'État et un oligopole industriel. C'est aussi une façon de s'affranchir, de basculer en mer des difficultés rencontrées en terre, que ce soit les paysages terrestre. Alors évidemment, il y a un paysage marin, on va en parler, mais on l'a vu à Oléron, cet argument comme quoi ça allait nous libérer des problèmes du paysage sur Terre, et c'était assez régulier. Des permis de construire, des enjeux des mers éventuellement, les mers au sens M-A-I-R-E-S, des enjeux de propriété de sol, etc., d'expropriation, tous ces aspects-là. Et donc, on a l'idée que la mer va permettre de retrouver les bases de ce qu'a été la politique énergétique des Trente Glorieuses, finalement, pour le dire très vite, et peut-être que ça serait à discuter. Alors, en fait, deuxième partie de cette réflexion, c'était de se dire, quand on bascule du côté de la mer, le but, c'est d'installer des objets fixes dans un milieu fluide, et donc pour capter son énergie. C'est l'énergie, alors c'est pas celle directement du fluide marin, mais c'est du fluide aérien. Mais il s'agit quand même de venir capter avec un dispositif fixe une énergie dans un milieu extrêmement fluide. Et les termes qu'on associe habituellement à la mer sont évidemment ceux de la fluidité. On peut penser au courant, aux vagues, à la houle, au vent, aux marées. Tout ça, c'est des termes du mouvement. Et donc je rappelle, Francis nous a rappelé les lectures de Michelet. Toi, t'es entré par Michelet dans le débat public. Alors, je sais pas si c'est une bonne façon, mais le public en face avait pas forcément Michelet en tête. Michelet parle du pouls de la mer. Donc on a bien cette idée que la mer, elle bouge, elle vibre, etc. Et elle est pas du tout un lieu du fixe, du figé. Les éléments qui peuvent être figés sont soit des éléments très invisibles, du type des fonds marins, on les voit pas, mais il y a bien des choses fixes, mais on les voit pas. Soit c'est des appellations en fait qui sont figées, mais pour parler de choses dynamiques, comme les courants. On va parler de Gulf Stream, il est là, mais en fait c'est un mouvement. Donc c'est plutôt nous qui appelons ça comme ça, mais on qualifie une dynamique d'un nom figé. Et puis même ce qui est pire, c'est que ce qui paraît figé en fait est éminemment mobile. Donc ça, c'est la question du trait de côte, j'en profite pour faire de la publicité pour l'ouvrage que monsieur Lacroix nous a co-rédigé sur la montée des eaux, donc thématique du mouvement. Et puis les dunes, même les dunes, évidemment on sait que d'une année sur l'autre elles sont plus forcément au même endroit. On a un milieu éminemment mobile, sur lesquels les humains eux-mêmes bougent, les bateaux évidemment, on va faire un tout petit peu de mobilité. C'est quoi les principales sources de cette mobilité? On a évidemment la voile, qui est essentiellement réservée à de la plaisance, même si on a quelques retours pour du fret maritime. Et puis on a surtout les énergies fossiles. Moi, ce qui m'avait frappé un peu quand on parle des pêcheurs et tout, c'est qu'on remet jamais en cause la question de la consommation d'énergie fossile par les pêcheurs. Alors, j'ai fait un petit calcul. J'ai regardé l'ADEME. combien, une petite question, combien de litres de gazole y a-t-il dans un kilo de poisson? 1. Alors l'ADEME dit 0,5, mais c'est même ordre de grandeur. Hein. C'est-à-dire qu'on est à 500 grammes de gazole pour 1 kilo de poisson. Donc ça on n'en parle pas, je n'ai pas osé le dire aux pêcheurs, ça. Mais il ne faut pas, hein, c'est ça. Et donc, le petit calcul, c'était de se dire, ouais, le parc d'Oléron, par exemple, avec 1 giga, ben, 1% de sa production annuelle permettrait de faire circuler tous les bateaux de pêche de la Cotinière s'ils étaient électrifiés. Donc ça, c'était, par exemple, il y aurait une logique, là, quelque part, mais ça on n'a pas poussé cette logique-là. Donc on est quand même dans un gros monde de la consommation très, très fossile. Et c'est la mer, ce qui est assez frappant, c'est que c'est pas un lieu de l'électrification, en fait, hein, pour, enfin, ou peut-être de façon extrêmement marginale, voilà. Il y a des navettes électriques, on en a sur les fleuves et les canaux, un peu pour les touristes, peut-être en mer, si vous avez peut-être des exemples, mais pas beaucoup. C'est un lieu qui reste le monde de l'énergie traditionnelle pétrolière. Et dans ce monde, donc, de la fluidité, pour les hommes, elle se joue essentiellement avec le pétrole. En fait, on a essayé déjà de mettre en place des éléments fixes, peu, des éléments immatériels et puis des éléments très, très concrets, matériels, qui sont moins nombreux. Alors, les immatériels, c'est plutôt les zones, c'est-à-dire, en fait, la délimitation d'un certain nombre de zones, des zones militaires, des parcs naturels marins, hein, comme celui des mers des Pertuis Poitevin. Des zones de pêche, des domaines divers et variés. Parfois, elles sont matérialisées par des délimitations extrêmement légères, hein, les zones de baignade, etc. Ces zones, elles reflètent la diversité des usages de la mer. Elles peuvent se superposer, s'exclure, etc., bouger peut-être parfois. Mais elles sont, c'est éminemment marqué par des éléments très immatériels. C'est très immatériel. C'est marqué c'est surtout des traits sur des cartes, en fait, hein, au final. Alors que les éléments matériels en mer, il y en a peu. Moi, j'en ai trouvé quelques-uns, mais peut-être vous en trouverez d'autres. On a un certain nombre d'éléments de signalisation, de sécurité. Alors, il y a les phares, bien sûr, mais il y a aussi d'autres types de bouées et autres sémaphores. On a des installations de pêche, d'élevage, conchylicole, qu'on peut découvrir à marée basse. Alors, on parlait ce matin aussi quelques restes d'obus de la Seconde Guerre mondiale qui apparaissent quand la mer se retire, enfin ce genre de choses. On a des épaves, c'est un peu la même chose. Et puis on a des plateformes pétrolières. Alors pas trop chez nous, mais il y en a, c'est quand même un peu l'autre objet qu'on a posé de façon fixe dans la mer. Peut-être que vous aurez en tête d'autres objets qu'on a posés, moi j'en ai pas forcément vu. Et donc, parmi ces objets, évidemment, les plus connus sont les phares. Alors, on aura demain une super conférence de Vincent, une causerie. Alors, moi, j'ai lu ça fait 20 ans que je lis du Vincent Guignot, donc j'ai un résumé rapide sur la question des phares. Donc, déjà, les phares en mer, Vincent, c'est 25, 30 en France, sur 150 grands phares. Donc, c'est pas du tout la majorité, même si c'est l'imaginaire qu'on associe le plus, peut-être. Il se trouve que nous, on avait Cordouan, hein, dans la zone du débat public, donc ça, et qu'en plus, il y avait ce classement patrimoine mondial. Donc, on nous a d'ailleurs demandé de pas être trop visible avant que la commission du débat de l'UNESCO passe, pour pas qu'on voit trop qu'on voulait mettre des éoliennes pas loin. On est passé après. Et je voulais un peu travailler sur la différence entre phare et éolienne. Alors, tu le referas sûrement, Vincent, demain. Mais il y avait l'idée de se dire que le phare, c'est d'abord pour la sécurité maritime, évidemment. Et comme tu l'as dit hier, hein, il est au cœur d'un fort attachement. Alors même qu'il sert à peu de gens, et moins il sert, et plus il est attaché. C'est à peu près ça. Et avec une image plutôt bretonne, donc le fameux logo, ton exposition phare au Trocadéro finissait par des objets avec le logo produit en Bretagne, y compris en Bretagne dite historique 44, si vous voyez. Et aussi un côté fierté nationale, puisqu'en fait la France avec la Grande-Bretagne, c'est un peu le pays qui a diffusé ces phares, et nous sommes les inventeurs de la lentille de Fresnel, dont on fête les, je sais plus combien, 200 ans de l'invention ou de la mort, non?
D'abord 127,
on va attendre un peu, voilà. En tout, voilà. à Cordouan. Michelet sur Cordouan, donc on ne connaît pas assez ce respectable personnage, ce martyr des mers, ça c'est Cordouan, c'est pas Fresnel, sa position de gardien des mers, de veilleur constant du détroit, en fait une personne. Et c'est ça l'idée, c'est qu'on a une personnification, une personnalisation. Les phares, ce qui est assez frappant, c'est que même si c'est des objets industriels, enfin de l'époque industrielle, 19e, début 20e, ils incarnent un peu une sorte de résistance immuable au temps, aux éléments et aux intempéries, évidemment, avec cette fameuse image du phare de la jument dans la tempête, donc où vous voyez le gardien sortir alors qu'il y a une énorme vague derrière lui, et ben c'est pas grave, il est chez lui, il a le phare qui résiste. Et donc c'est le côté protecteur. Et en plus protecteur d'autant plus fort que on leur donne même un nom. Hein, ils ont tous des noms. Enfin, je sais pas s'ils ont tous des noms. Si, voilà. Alors je sais pas. C'est une question qui se posera. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'en France, on parle des parcs éoliens en fonction des zones, des communes éventuellement en face ou de la Manche, etc. Mais on n'a pas des noms. Enfin, ça reste des noms assez administratifs. Je ne sais pas si on va nommer ces parcs par un nom particulier. J'avais l'impression qu'en Europe du Nord, ils avaient peut-être des noms un peu moins administratifs, mais je suis pas sûr. Et donc, face à cette image donc du phare, les éoliennes, elles jouent avec un autre, elles jouent sur un autre registre en fait. Hein. Elles sont déjà beaucoup plus grosses, on l'a dit. J'avais marqué 260, on monte à 290. Ce qui est trois fois plus haute que le phare, même que le plus grand phare français. Elles sont destinées à avoir un usage à distance via le réseau électrique, et non pas, en fait, c'est pas en la voyant qu'elles nous seront utiles. En fait, au contraire, c'est elles nous sont utiles sans la voir, et même on peut souhaiter ne pas la voir tout en l'utilisant. Donc c'est un peu le contraire du phare en ce sens. Et elle représente même un danger pour les marins plutôt qu'une sécurité. Hein. Ça, on l'a bien entendu, les pêcheurs nous ont vendu et survendu le fait que c'était dangereux pour leur pratique. C'est des objets évidemment neufs et qui n'ont pas vocation à durer dans le temps. C'est-à-dire qu'on sait que, et le débat public le montrait, on parle tout de suite de leur démantèlement, hein, et voire de l'ACV complète, analyse en cycle de vie, de dire comment ça va se passer, etc., dans 30 ans et tout. Donc on n'est vraiment pas sur l'idée que ça va devenir un patrimoine. On est sur l'idée que on les met là et puis il y a même le fantasme de se dire que qu'est-ce qu'on va refaire après, est-ce qu'on va enlever les piles, est-ce qu'on va les aller où il y aura des poissons dessus, enfin etc. Moi je pense qu'il y aura toujours autant de vent qu'on en remettra des nouvelles au même endroit, mais enfin ça c'est voilà. Il y a le côté métal contre granit, enfin ce genre de choses qui font que c'est pas le même objet, elles sont pas habitées, même si les phares le sont plus, mais elles ont pas vocation jamais à être habitées. La maintenance n'est pas pensée comme étant faite par des gens locaux, qui vivraient là sur place. Et puis elles ont pas de nom, moi je reviendrai là-dessus. Ça c'est une question qui m'interrogeait un peu. Et puis donc leur fixité dans la mer en fait est donc ça paraît beaucoup plus faible, finalement, leur caractère, leur ancrage, pour le dire comme ça, paraît plus faible que celui du phare, à tous les sens du terme. Mais néanmoins, elles semblent rejoindre dans le giron de l'État, en fait, elles semblent rejoindre quand même une logique historique similaire, qui est celle du prolongement de la souveraineté de l'État au-delà de son territoire continental. Pour porter, en fait, signifier sa puissance. Et donc, ce sera la troisième partie sur quelque chose qui essaye de discuter un tout petit peu de ce que Francis a d'ailleurs introduit, la mer comme prolongement de la terre, avec la façon dont l'État utilise cette logique de la mer comme prolongement de la terre, afin de prolonger de signifier et prolonger sa souveraineté et sa puissance, par tous les termes, le sens du terme, que ce soit militaire ou énergétique. Évidemment, la mer comme prolongement de la terre, elle l'est par tout un tas d'aspects, hein, comme tu l'as dit, Francis. Ce qui moi me frappait en Charente-Maritime, c'est que c'est aussi le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, la terre est aussi le prolongement de la mer parce qu'on a des marais. On a toute une terre assez mouillée, en fait, si, pour le dire comme ça, assez humide. Et puis, il y a la montée des eaux qui fait qu'il y a un moment où cette terre va devenir de l'eau. Donc, c'est bien plutôt la terre qui est le prolongement de la mer dans ce sens, avec des lieux aussi comme Brouage, où la mer n'est plus là, mais elle va probablement revenir. Enfin, on a ce genre de lieux. Dans le monde de l'énergie, le prolongement de la terre par la mer, il s'est joué par le pétrole, il s'est joué par les premières centrales, plateformes pétrolières en mer. Alors quand ça se passe, c'est dans les années 1930 aux États-Unis, où on arrive pas l'épuisement, mais à des formes de décélération de la production dans les gisements classiques historiques, la Pennsylvanie, le Texas, la Californie. J'en profite pour vous signaler un livre qui s'appelle « Or noir » de Mathieu Ozano, vous avez peut-être croisé, sur l'histoire du pétrole, qui est pas mal du tout. Et donc, il commence à mettre des plateformes dans les golfes du Mexique, dans les années 30. Et à partir de là, on va voir cette figure de la plateforme pétrolière se déployer un peu partout dans le monde, en mer du Nord, au Brésil, en Indonésie, en Angola, etc., qui conduisent à des objets macroscopiques en mer. Et ça renvoie avec ça incarne le fait que la mer pourrait être et est devenue pourvoyeuse de ressources d'avenir. Alors moi j'ai lu récemment que 30% de notre pétrole venait de la mer à peu près aujourd'hui. Je sais pas si c'est un chiffre. Non, oui, c'est ça à peu près. Confirmé. Donc c'est quand même énorme. Et ça renvoie avec l'idée que la mer pourrait nous proposer d'autres ressources, alors énergétiques, énergétiques, on va le dire comme ça. Donc il y a l'idée des algocarburants, les microalgues qu'on pourrait produire dans la mer, les éoliennes évidemment, les hydroliennes, et puis tout un tas de solutions. Donc ces plateformes pétrolières pourraient finalement n'être que le premier pas d'une exploitation énergétique de la mer. Et alors ce qui pose quand même historiquement on sait qu'on a eu beaucoup de déconvenues sur ça, à part le pétrole en fait, finalement toutes les autres utilisations énergétiques de la mer pour le moment ont souvent eu des déconvenues. Alors c'est Anaïs qui travaille sur la déconstruction d'un certain nombre d'objets. On peut penser pas loin d'ici à l'usine de la Rance, qui a quand même conduit aussi à des déconvenues comme utilisation de l'énergie marémotrice. Alors face à ces désillusions, on a quand même une dynamique constante de se dire que la mer va nous apporter ces nouvelles ressources. Parce que en fait, les limites sur Terre semblent de plus en plus atteintes. C'est-à-dire qu'en fait, plus on est face aux limites sur Terre, plus on se dit que la mer va rouvrir ses limites et rouvrir toujours le champ des possibles, de revenir libératrice et permettre de prolonger ce qu'on n'arrive pas à faire sur Terre par en plus des dimensions plus fortes, gigantesques et un peu d'inconnu, un peu d'aventure. La mer va être la condition de poursuite du modèle industriel. C'est un peu comme le pétrole. C'est-à-dire qu'on n'a plus de pétrole en Pennsylvanie et tout. Heureusement, on arrive à en trouver dans le golfe du Mexique et à prolonger. Et sinon, le modèle industriel s'effondre. Et je dirais même qu'une autre illustration de ça, c'est finalement la mer comme aussi lieu de navigation et de conquête de ressources par la colonisation, en fait, la conquête de ressources par la colonisation a été une façon d'asseoir et de développer le modèle industriel, et ça s'est fait par les mers. Donc on a aussi cette idée que la mer est vraiment une condition même de la poursuite du modèle industriel. Donc tout ça va installer la mer comme un prolongement de la souveraineté et de la puissance des États, au-delà de la Terre, et on a quelques illustrations, évidemment le cas britannique est peut-être le plus illustratif, mais d'autres cas, Singapour, les Pays-Bas, tout un tas de cités ou d'États qui ont une puissance maritime qui prolonge leur puissance terrestre. En France, on n'est pas dénué de tout ça. On a le fameux Charles de Gaulle qui incarne tout ça à la fois, son caractère nucléaire, son nom, sa souveraineté, les rafales. Enfin, il y a tout. On coche toutes les cases autour de cet objet. La maîtrise donc de la mer est donc un des principaux supports de la souveraineté de l'État et notamment. Ça peut passer par un certain nombre d'objets techniques. Alors, On peut revenir au phare et à la lentille de Fresnel, que Michelet a encore, évidemment, il en parle, hein, évidemment, et à l'idée que par ces objets techniques, on va prolonger la puissance et de l'État et ce que l'État apporte aux citoyens, aux citoyennes, notamment les lumières. Hein, donc c'était aussi, Vincent, je te recite, hein, sur le phare Amédée en Nouvelle-Calédonie, qui, en apportant la lumière, apportait aussi les lumières aux Kanak, en fait. Hein, donc on avait cette idée que l'objet technique et cette mise à distance lointaine était une façon d'apporter la rationalité, etc., de baliser, de maîtriser ce territoire. Et ça renvoie évidemment, dans le monde de l'énergie, à une autre historiographie, celle du nucléaire, comme prolongement de la puissance de la France qui a perdu ses colonies. Hein, c'est les fameuses thèses de Gabriel Hecht, avec l'idée que le rayonnement de la France va passer par le nucléaire. Nucléaire qui n'est pas sans lien avec l'empire colonial lui-même, sur l'Algérie, le Niger, etc. On a toujours cette recherche au lointain de l'appui, de la souveraineté de l'État, au-delà des mers ou par la mer. Dans cette analyse, en fait, les éoliennes, en fait, en mer sont, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont à la fois, elles sont complémentaires ou appelées à se substituer en partie au nucléaire. Elles sont complémentaires parce que la PPE va prévoir, en fait, de toute façon, un développement de l'électricité, donc on aura plus de besoins. Mais si on réduit la part de nucléaire, ça veut aussi dire qu'on va faire de l'électricité autrement, et donc aussi par de l'éolien notamment. Et donc on a un retour de la mer comme support de la souveraineté de l'État, qui justement est un peu déstabilisé sur Terre par son nucléaire, qui est quand même pas des plus en forme, si je peux le dire comme ça, aujourd'hui. On a aussi l'idée que par la mer, on va enfin, on peut trouver une solution qui est à la fois à l'échelle, et à la fois plus facile, plus rapide, plus à même de tout de suite fournir cette puissance. Avec souvent, en fait, dans le débat public, on a opposé, en fait, éolien et nucléaire. Et d'ailleurs, dans les groupes d'intérêt à l'œuvre, on le voit bien. Hein, on a quand même tout un groupe d'intérêt anti-éolien qui est très pro-nucléaire. Je trouve que cette opposition, elle est quand même un peu discutable, hein, puisque c'est des mêmes objets macroscopiques, c'est des mêmes parcs de même taille, enfin de même production. Alors, le nucléaire, quoique même en prenant en compte le facteur de charge du nucléaire, finalement, c'est à peu près pareil. Parce que le nucléaire, il ne produit pas à 100% non plus, on le voit bien. Hein, et c'est la même logique de souveraineté étatique. C'est des formes plutôt de complémentarité que de concurrence. Et si on veut un tant soit peu décarboner, ben en fait, c'est deux dynamiques à l'œuvre dans les formes de décarbonation qui vont peut-être plus dans le même sens qu'elles ne s'opposent. Finalement, on pourrait penser ces éoliennes en mer comme une sorte de nouveau plan Messmer. Alors, je ne sais pas quel est le nom qu'il faut lui donner, le bien nommé. Avec tout ce qu'il y a chez Messmer, en fait, à la fois la résistance, le gaullisme et tout ça, on pourrait le réinvestir là-dedans, finalement. Mais quelques éléments, et pour finir, ont quand même changé. Hein, c'est que l'État, c'est plus le même, évidemment. Et on peut s'en réjouir aussi, hein, c'est pas forcément... L'État sera toujours l'État. Mais voilà, en tout cas, il y a évidemment plein de formes de décisions en dehors, plein d'expertises. L'État a-t-il les capacités de développer une perspective de temps long face à un monde qui s'accélère, qui s'est accéléré, qui pense plus trop le temps long, mais le temps ultra court, etc. Et qui rend la prospective, peut-être, ou les prévisions extrêmement difficiles. Évidemment, un certain nombre d'horizons qui sont marqués par des limites plus que des ouvertures, hein, le réchauffement climatique, les enjeux énergétiques, la dissociation sociale, enfin plein de choses. Et puis, autre élément, c'est que autant les centrales nucléaires, on ne les a pas forcément mises là où il y avait des gens, autant là, le littoral, c'est le lieu où les gens vivent. Et donc ça pose un énorme problème, et de vivre de plus en plus. Donc ça, c'est évidemment un problème d'aménagement très clair. Qui vient boucler pour finir sur la question du regard paysager et patrimonial. Et là-dessus, je voulais finir en bouclant vers les mobilités pour rappeler que, en fait, Tous ces enjeux de protection de la nature, de paysage, de regard patrimonial, finalement, ils sont intrinsèquement liés à notre mode de vie industriel et à nos objets industriels, et notamment au chemin de fer. C'est du fait du chemin de fer qu'on a commencé à protéger les espaces. Le premier site protégé en France, c'est la forêt de Fontainebleau. Si les gens sont commencés à se dire que la forêt de Fontainebleau, c'était super, c'est parce qu'ils y allaient en chemin de fer depuis Paris. Et c'est aussi du fait du chemin de fer qu'a été créée la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, dont nous, on a beaucoup entendu parler à Oléron. Elle naît en 1912, et elle naît face à quoi ? Elle naît face aux sept îles, donc en Bretagne, face aux parties de chasse des oiseaux, aux oiseaux, organisées par qui ? Par la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, en Bretagne, puisqu'il y a cette pratique liée au chemin de fer du tourisme, l'aventurier qui vient voir un peu des espaces sauvages. Et on a en réaction cette question de la protection. Donc, opposer en fait développement du mode de vie industriel et protection est quelque part faux, puisque les deux vont de pair. On a la même histoire en Grande-Bretagne, hein, la Royal Society for the Protection of Birds, qui naît avant la LPO en 1889. Elle naît où ? À Manchester. Et elle naît, donc c'est la ville de l'industrie, hein. Et c'est pas pour rien que les Anglais sont extrêmement fans de petits oiseaux, etc. C'est aussi que c'est eux les premiers industrialisateurs du monde. Et on a donc c'est les deux faces d'une même médaille, ce qui convient peut-être de penser autrement que par une opposition brutale, un peu comme on l'a vu, nous, dans le débat public. Donc je vais conclure là-dessus et laisser Sylvain ou Francis commenter, réagir avant que, évidemment, le débat s'engage dans un public de la salle.
Un public averti.